Corsa KTM.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes témoins et acteurs de l'histoire. 20 ans après sa disparition, nous nous interrogeons sur la relation entre François Mitterrand et l'Afrique.
Chers amis, vous êtes et nous sommes une large partie de ce monde et nous avons notre mot à dire sur les affaires universelles. Vous souhaiteriez que les controverses sur les rapports Est-Ouest n'occulte pas les questions du développement et la France, pas davantage, ne l'accepte. Mais nous devons tenir compte des réalités du monde. Votre objectif est d'empêcher que l'Afrique ne devienne le champ clos des rivalités et des contradictions d'intérêts extérieurs à votre continent. Tel est aussi le point de vue de la France.
Novembre 1981, c'est le premier sommet France-Afrique pour le premier socialiste devenu président de tous les Français. 20 chefs d'État africains ont fait le déplacement, ils n'avaient jamais été aussi nombreux. L'Ivoirien Oufouette Boigny, le Zaïrois Mobutu Sese Seko mènent une délégation où l'on découvre de nouvelles têtes. Abdou Diouf pour le Sénégal, Goukouni Wedeï pour le Tchad ou Mathieu Kérékou pour le Bénin. Après 25 ans de droite en France, François Mitterrand incarne le changement. Il est celui qui a promis une ambitieuse politique à l'égard du tiers-monde, conforme à l'exigence de solidarité entre les hommes. Une sacrée rupture, source d'inquiétude pour l'Afrique de papa. Les intérêts du précaré francophone vont-ils se dissoudre dans le tiers-mondisme du Parti Socialiste? Réponse avec notre invité, journaliste à RFI, Christophe Boisbouvier, chaque matin dans l'invité Afrique, l'émission parfois polémique, mais jamais langue de bois. Bonjour Christophe Boisbouvier.
Bonjour Valérie.
C'est le spécialiste de l'Afrique que je reçois, mais aussi le passionné d'histoire. C'est une évidence lorsqu'on lit votre livre « Hollande, l'Africain » aux éditions La Découverte, où vous commencez par revisiter la relation de François Mitterrand à l'Afrique. Alors pourquoi est-elle déterminante pour les socialistes qui suivront, et notamment pour François Hollande ?
Parce que au moment où il est élu, François Mitterrand est porteur de promesses extraordinaires, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, la droite a gouverné depuis 23 ans en fait. C'est De Gaulle, c'est Focard et ses continuateurs, et beaucoup de gens de gauche, pas seulement en France, mais en Afrique, en Amérique latine, mettent en Mitterrand énormément d'espoir. Et alors il y a un sommet symbolique pour cela. C'est un mois avant le sommet dont vous venez de parler. C'est le sommet de Cancun. En octobre 81, c'est au Mexique et c'est le tiers-mondisme qui parle. Régis Debray aide Mitterrand à écrire son discours, un très beau discours où il promet que maintenant la France va défendre la démocratie partout.
Et dans cette relation à l'Afrique, il y a une relation de Mitterrand à un Africain en particulier, c'est Félix Houphouët-Boigny.
Tout permet une coopération réelle, confiante. Mais le plus souvent, quand on voit un Africain venir à Paris ou aller à Londres ou aller en Allemagne, tout de suite, le commun des mortels dit « Voilà, il est venu chercher de l'argent. » La réalité est tout autre. Nous sommes en train de jeter la base d'une coopération qui profitera à terme aux Européens comme aux Africains. Aujourd'hui, vous avez la matière grise. Et nous avons la matière première. On doit pouvoir s'entraider.
Houphouët Boigny, un des piliers de la France-Afrique, Christophe Boisbouvier. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler du tandem Focard-Houphouët, mais il y aurait-il eu un précédent, Christophe Boisbouvier, entre donc Mitterrand et Houphouët ?
Oui, c'est ce que je ne savais pas beaucoup avant d'écrire ce livre et que j'ai découvert avec l'aide notamment d'un chercheur qui connaît bien tout ça, qui s'appelle Jean-François Bayard. En fait, Houphouët et Mitterrand, c'est un très très vieux couple politique qui remonte aux années 50. l'entrée de Mitterrand en politique, c'est par l'Afrique. Il a à peine 35 ans, nous sommes en 1950, il devient ministre de la France d'outre-mer. Et du coup, il est amené à voyager en Afrique. Il se veut porteur d'une décolonisation habile. C'est un rusé, Mitterrand, déjà. C'est-à-dire qu'il a l'idée que, certes, un jour, l'Afrique va devoir devenir indépendante. À cette époque-là, il ne le pense pas encore, mais petit à petit, il va le penser. Mais qu'il faut s'arranger pour que l'Afrique décolonise en restant très proche de la France, et que cette décolonisation forte et apparente reste en réalité un lien très fort qui permette de maintenir ce que Jean-Pierre Dozon appelle l'État franco-africain. Et pour cela, il fait un coup politique extraordinaire. Il réussit en 1950-51, pendant cette fameuse année où il est ministre de la France d'Outre-mer, à retourner Oufouette Boigny, qui à l'époque est déjà un grand leader politique de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de l'Ouest, et qui à l'époque est avec le Parti communiste français. Il réussit à le retourner, à le faire venir dans son petit parti de centre-gauche UDSR, et à faire avec lui un compagnonnage politique qui va durer jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est-à-dire jusqu'à 93, jusqu'à la mort d'Oufouette.
Alors revenons au 10 mai 1981, après tout, c'est le changement, et d'ailleurs ce changement est incarné à l'époque par un jeune militant socialiste à la coupe afro. Il s'appelle Jean-Pierre Cotte. 35 ans après, il a accepté de témoigner pour la Marche du Monde.
Mitterrand, comme tous les grands politiques, était un homme complexe et plein de contradictions. Je pense que, à la fois, il aimait bien entendre une petite musique internationaliste et tiers-mondiste. Cela donnait à toute sa vision et à tout son propos une dimension nouvelle et en rupture avec la politique française traditionnelle. Et par ailleurs, il était un très bon connaisseur de l'Afrique d'antan. Et il avait son réseau de relations franco-africaines très bien implanté. Il avait donc ces deux aspects qu'il a continué à maintenir et dont il a joué admirablement.
Vous savez que depuis déjà de nombreuses années, l'Union démocratique et socialiste de la résistance, l'UDSR, que je préside, est une amie du Rassemblement démocratique africain.
En 1951, François Mitterrand obtient la rupture du RDA avec les communistes, comme vous l'avez souligné, Christophe Boisbouvier, en faveur de son parti, l'UDSR.
D'ailleurs, au Parlement français, nous sommes associés dans les mêmes groupes parlementaires. Enfin, nous avons des liens personnels, d'amitié, de fraternité, avec vos dirigeants, qui, dans les commissions, ou à l'Assemblée nationale, ou au Sénat, remplissent un rôle éminent. Particulièrement avec M. le Président Oufouette, avec M. le Ministre Keïta, avec nos amis Lisette, Voisin Koulibaly, Amani Diori et quelques autres. Voilà les raisons pour lesquelles, indépendamment des problèmes politiques, j'étais particulièrement satisfait de me trouver parmi vous au sein de ce congrès du RDA.
Mitterrand était un vieil Africain, il ne faut pas l'oublier, très marqué par toute sa période comme jeune ministre de la France d'Outre-mer, au début des années 50, et il avait une vision de la relation entre la France et l'Afrique qui n'était pas spécifiquement une vision tiers-mondiste. La vision tiers-mondiste procédait d'une critique de la politique française, qui était une politique que nous considérions comme trop exclusivement concentré sur les anciennes colonies françaises et dans un rapport qu'on disait de France-Afrique. Il est certain qu'à l'époque, nous étions très critiques de cela et que nous souhaitions rompre avec cette vision-là et avoir donc une vision plus ouverte sur l'ensemble du tiers-monde.
De quelle façon apprenez-vous que vous êtes nommé ministre de la coopération ?
Très simplement et avec un peu de surprise, puisque François Mitterrand me convoque chez lui, dans son petit appartement dans le 5e arrondissement, et me dit « Pour vous, ce sera le ministère de la coopération ». Et je me souviens d'avoir répondu « Moi, je veux bien, mais de la coopération et du développement ». Il a été un peu étonné par cette réaction. C'est-à-dire que je ne connaissais pas grand-chose au problème des relations franco-africaines. J'étais beaucoup plus centré sur l'Europe. Mais donc j'ai réagi en disant coopération et développement, et ça a été comme ça. Il connaissait en gros mes idées générales sur le tiers-monde et le développement, mais il n'avait pas de d'instruction particulière. Il me laissait une très grande liberté. Il y avait Guy Pen d'un côté, il y avait moi de l'autre. C'était quand même deux visions très différentes de la relation avec le tiers-monde en général, mais avec l'Afrique en particulier. Et François Mitterrand était très content de jouer de ces deux voix différentes, comme dans beaucoup de domaines, ce qui lui permettait de pianoter d'un côté et de l'autre.
Jean-Pierre Cotte, ministre de la Coopération et du Développement, l'a bien compris. Et dans le même temps, une autre ligne tirée par Guy Pen à l'Élysée, c'est donc le monsieur Afrique de François Mitterrand. Peut-on le comparer au Jacques Faucard du général de Gaulle, Christophe Bouvier?
Oui, Guy Pen, d'ailleurs, la première chose qu'il fait quand il arrive à l'Élysée, c'est d'aller voir Jacques Faucard pour prendre conseil auprès de lui. Donc, quand Cotte dit « il y a deux voix », c'est ça. Est-ce que l'historien Mongo Betty, le Camerounais, appelle dès le mois de novembre suivant, Mitterrand, le Janus à l'Élysée. C'est-à-dire que en octobre, il va à Cancun pour célébrer la liberté des peuples du Sud, et en novembre, il reçoit en France les potentats africains de l'époque, notamment le Zaïrois Mobutu, sans aucune réflexion sur la façon dont ils traitent les droits de l'homme dans leur pays. Hein. Ce sont des autocrates, des dictateurs, etc. Donc on a déjà la double face de Mitterrand.
Alors, ces deux lignes politiques cohabitent environ 18 mois. C'est le tout début du premier septennat. Il faut imaginer ce que ça représente à l'époque, l'accession de la gauche au pouvoir. C'est un événement énorme qui suscite les espoirs fous du peuple de gauche. Et dans cette nouvelle vision du monde, Jean-Pierre Cotte serait-il le ministre de la moralisation des relations avec l'Afrique ?
Moralisateur, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. Ce qui est certain, c'est que nous avions le souhait de mettre en place une vision de la relation de la France avec le tiers-monde, au-delà de l'Afrique, et donc quelque part déjà de désafricaniser la politique française pour l'intégrer dans une vision globale de la relation avec le tiers-monde, et c'était un élément important et auquel je crois que François Mitterrand souscrivait.
Salut aux humiliés, aux émigrés, aux exilés sur leur propre terre, qui veulent vivre et vivre libre.
20 octobre 1981, le voilà, ce fameux discours. François Mitterrand est à la tribune de la conférence Nord-Sud au Mexique.
Salut aux prêtres brutalisés, aux syndicalistes emprisonnés, aux chômeurs qui vendent leur sang pour survivre, aux Indiens pourchassés dans leurs forêts, aux travailleurs sans droit, aux paysans sans terre, aux résistants sans armes qui veulent simplement vivre et vivre libre. À tous, la France dit courage, la liberté vaincra.
Le Mexique, Cancun, François Mitterrand a en effet à ce moment-là un discours très fort vis-à-vis non seulement de l'Amérique latine, mais Cancun, c'est pas seulement l'Amérique latine, c'est l'ensemble de la relation avec le tiers-monde. Il prend cette position-là contre Ronald Reagan. Et je veux dire par là qu'à ce moment-là, François Mitterrand est le héros d'un certain tiers-mondisme.
Le président Mitterrand annonce que l'aide au développement augmentera considérablement pour atteindre 0,52% du produit national brut. Mais comment sera-t-elle répartie, se demandent les chefs d'État africains, réunis sous les ors du château de Versailles un mois plus tard.
Messieurs les présidents, madame et messieurs les chefs de gouvernement et de délégation, votre présence à mes côtés illustre la solidarité profonde qui doit unir nos peuples. Ni vous, ni moi, n'acceptons les déséquilibres actuels, source de nouveaux périls pour le temps qui vient. La France est décidée à faire face à la crise et dans cette perspective à accorder une aide prioritaire à l'Afrique. Le programme économique que l'Organisation de l'Unité africaine a établi en 1980 à Lagos répond à des objectifs réalistes. Nous le soutenons dans ses principes et dans ses grandes lignes. Telle est l'ambition de notre coopération, telle est la ligne de notre solidarité.
Monsieur le Président, aussitôt après votre avènement au pouvoir en France, vous n'avez pas hésité à réaffirmer votre ferme volonté de poursuivre et d'intensifier la coopération franco-africaine. Même s'il est vrai que nous aurons tous à chercher les voies les meilleures pour lui insuffler, s'il le faut, une dynamique et une vitalité nouvelles.
Voilà pourquoi, j'en suis sûr, notre rencontre d'aujourd'hui, comme nos débats de demain, contribueront non seulement à améliorer nos relations personnelles, mais aussi à renforcer les liens entre nos peuples et à aider au progrès et à la stabilité du continent africain.
C'est le même François Mitterrand. Mais François Mitterrand, de nouveau, était un personnage complexe qui avait plusieurs pensées, plusieurs discours et qui pouvait admirablement, et je pense qu'à ce moment-là c'était le cas, à la fois resserrer les liens anciens qu'il avait avec ses chefs d'État africains et qu'il connaissait bien et de longue date, et en même temps tenir un discours d'ouverture tiers-mondiste. Il n'y avait rien de contradictoire dans le discours à l'époque.
Alors ça n'empêche pas le ministre de la coopération que vous êtes, notamment lors d'un entretien en tête-à-tête avec Mobutu, de lui demander très clairement de faire un geste pour libérer des prisonniers politiques. Donc cela veut dire que dans le même temps, il pouvait y avoir la position et l'attitude de François Mitterrand qui recevait finalement ses vieux amis chefs d'État africains. Mais néanmoins, Jean-Pierre Cotte, vous, en tant que ministre de la Coopération et du Développement, vous continuez à suivre votre ligne et vous essayez de mettre en place une autre politique.
Bien sûr, mais c'était en plein accord avec François Mitterrand. Je lui avais toujours dit que chaque fois que j'irais en Afrique, ce serait avec l'annuaire d'Amnesty International sous les bras. Et donc que chaque fois que j'irai voir un chef d'État africain, je lui parlerai de la question des droits de l'homme et que je plaiderai pour la libération éventuelle de ceux qui avaient été enfermés d'une manière que nous considérions comme abusive. Et Mitterrand était d'accord avec cette démarche. Il ne m'a jamais fait reproche d'avoir soulevé ce type de problème. Avec Mobutu, en effet, vous avez raison, avec Eyadema et avec la plupart des chefs d'État africains. Il disait, on va arranger tout ça, on va libérer tout ce beau monde. Le seul qui assumait pleinement sa férocité, c'était Sékou Touré.
Le témoignage de Jean-Pierre Cotte, ancien ministre de la Coopération et du Développement de François Mitterrand. Il est désavoué au bout de 18 mois et n'accepte pas le poste d'ambassadeur à Madrid. Il préfère démissionner. Pourquoi ce désaveu, Christophe Bobouvier, aussi courtois soit-il? Les chefs d'État africains ont-ils demandé le limogeage de Jean-Pierre Cotte et pourquoi?
Je pense que c'est Oufouette, en fait, qui a demandé la tête de Cotte. Si Mobutu avait demandé la tête de Cotte, et il l'a certainement fait, ou si Eyadema l'avait demandé, je pense que ça n'aurait pas eu de portée. Et de fait, pour les calmer à chaque fois, Mitterrand n'oubliait pas d'envoyer Guy Penn en jet privé, assez discrètement, derrière Jean-Pierre Cotte, pour détricoter ce que Jean-Pierre Cotte avait fait. Donc ça marchait comme ça pendant 18 mois, mais je pense que c'est Oufouette. On est en 81, ça fait donc déjà 30 ans que ces deux hommes sont complices en tout ce qu'ils font, etc. C'est Oufouette qui a dû décrocher son téléphone et qui a dû dire à Mitterrand, ça suffit, voilà. Oufouette, à l'époque, est encore un des faiseurs de la politique africaine de la France. Jusqu'à la fin, quasiment, ce que dit Dozon dans l'État franco-africain, c'est-à-dire que Oufouette est peut-être plus important dans la politique africaine de la France qu'un ministre français. Et voilà, donc il fallait que ça cesse, et à ce moment-là, en effet, c'est la rupture.
Est-ce que cela voudrait dire, Christophe Boisbouvier, que dès le départ, cette relation France-africaine est plus complexe qu'elle n'y paraît, que ce n'est pas seulement la France donc, qui maintient son précaré pour défendre ses intérêts, mais que, de leur côté, les chefs d'État africains, eux aussi, se servent de cette relation pour servir leurs propres intérêts?
Oui, et puis je pense qu'entre Mitterrand et Oufouette, il y a une notion importante, c'est l'anti-anglo-saxon. Ni l'un ni l'autre n'aime les anglo-saxons, c'est le complexe de Fachoda chez Mitterrand, c'est le complexe du Nigeria chez Oufouette, d'où le soutien aux rebelles biafrais entre 67 et 70 à l'initiative de Oufouette. Les deux partagent cette même volonté de maintenir l'influence de la France. Oufouette est à ce moment-là autant patriote pour la France que pour son propre pays, la Côte d'Ivoire. La francophonie aussi, la francophonie va arriver assez vite après. Et je pense que il faut peut-être comprendre aussi dans le limogeage de Jean-Pierre Cotte, en décembre 82, le soupçon chez Mitterrand et Oufouette que Jean-Pierre Cotte, avec sa volonté de globaliser, comme il le dit à votre micro, Valérie, cette volonté de traiter tous les pays de la même façon, qu'ils soient francophones, anglophones ou lusophones, ça ne plaît pas à Mitterrand et Oufouette.
Mitterrand, l'Afrique.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée à Mitterrand, l'Africain. Après 18 mois au ministère de la coopération et du développement, Jean-Pierre Cotte démissionne. Il n'est plus soutenu par le président Mitterrand. En ce qui concerne les anciennes colonies françaises, la vision humaniste et tiers-mondiste des relations Nord-Sud a vécu. Vive la France-Afrique. Le 3 octobre 1983, la question de l'intervention militaire au Tchad est au centre du sommet franco-africain de Vittel. Georges Bortoli pour Antenne 2.
37 pays africains, francophones ou non francophones, représentés ici dans cette ville d'eau au cœur des Vosges, cela suffit à dire quel pôle d'attraction représente la France pour l'Afrique. La grande question ici, c'est la question du Tchad. La présence des troupes françaises a évité que les troupes libyennes et pro-libyennes déferlent sur la capitale N'Djamena, donc on se trouve dans une situation où la France a évité que le Tchad tombe complètement sous la coupe de Kadhafi, mais où il y a un risque de partition dans la mesure où les troupes pro-libyennes ou libyennes sont toujours dans le nord du pays. Donc comment trouver une solution politique pour éviter justement cette espèce d'annexion complète ou rampante ou déguisée par Kadhafi? C'est le problème que tous les chefs d'État présents ici vont étudier.
Nous vous retrouvons, Christophe Boisbouvier. Vous nous accompagnez depuis le début de cette émission. Alors, c'est la première intervention militaire sous François Mitterrand. Que se passe-t-il et comment le président Mitterrand se positionne-t-il à ce moment-là?
Il a une phrase très expressive. Dans cette affaire compliquée, il faut avoir une idée simple. Si le Niger et le Cameroun craquent, c'en est fini de l'influence française en Afrique. En fait, son obsession, c'est ça, c'est l'Afrique utile, l'Afrique francophone. Donc le Tchad, c'est le glacis qu'il faut tenir face à la menace libyenne venue du nord pour protéger le Cameroun et le Niger à l'ouest et au sud du Tchad. Il a déjà cette idée, que François Hollande défendra bien plus tard ensuite, qu'il faut préserver l'Afrique utile contre les menaces venues du désert, du Sahara. Et alors, il y a à Vittel un autre événement important, c'est vraiment le retour en grâce totale de Mobutu, qu'on a déjà entendu dans la première partie de votre émission, Valérie. C'est-à-dire que où Mitterrand a besoin du président zaïrois pour faire une médiation au Tchad, hein, entre le nord et le sud, et Mobutu, qui était déjà l'un des chefs d'orchestre de la réunion de 81 à Versailles, là, il est vraiment l'un des partenaires de Mitterrand sur l'Afrique, parce que Mitterrand a besoin notamment de ce poids lourd de l'Afrique noire francophone pour résoudre politiquement le problème tchadien.
Donc vous le montrez bien, ce Tchad, c'est absolument le poste avancé du précaré français. Et ce qui fédère ce précaré, c'est aussi la langue. En amoureux fou de la langue française, en grand stratège, mais également en grand érudit, François Mitterrand veut que la langue française rayonne. Il initie le premier sommet de la francophonie. Trouve-t-il le soutien escompté auprès des chefs d'État africains? Qui le soutient dans cette affaire?
Alors, on a parlé d'Oufouette tout à l'heure à propos de ce côté anti-anglo-saxon, complexe de Fashoda, complexe du Nigeria. Donc, Oufouette est pour. Et puis, il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'à l'origine de la francophonie, c'est le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, hein, évidemment. Et que c'est ensuite les Français qui reprennent à leur compte cette idée des Africains en envoyant l'intérêt politique. Et en effet, chez Mitterrand, on a, début 86, un petit livre. Ce sont des réflexions sur la politique extérieure de la France. C'est le nom du bouquin, dans lequel il dit, c'est assez étonnant, il est trois domaines non négligeables, un précaré dont je revendique lorsqu'il est empiété qu'il soit reconnu et rendu à la France. C'est vraiment un langage militaire. Dans ce précaré, je distingue en premier notre langue, notre industrie et notre sécurité, qui sont autant de fronts où garder nos défenses sans les quitter des yeux, que l'un cède et la citadelle tombera. Cette image guerrière traduit très exactement ma pensée. Vous voyez, il met la langue française au même niveau que l'industrie et l'armée.
Et vous rajoutez même dans votre livre, Christophe Boisbouvier, qu'à votre sens, c'est Mitterrand lui-même qui a écrit ces lignes. Mais un jeune capitaine frondeur vient perturber les amitiés france-africaines. Il s'agit de Thomas Sankara, déjà présent au sommet de Vittel, où il avait joué les troubles fêtes. Il reçoit François Mitterrand à Ouagadougou et l'interpelle 3 ans plus tard.
Monsieur François Mitterrand, des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours.
C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, hein, qui me permette de lui parler du haut de mon expérience.
Quel échange, Christophe Beaubouvier. Jusqu'où Thomas Sankara dérange-t-il François Mitterrand?
Oui, c'est une fameuse conférence de presse à Ouagadougou où on sent Mitterrand déstabilisé par Sankara. C'est étonnant cet échange. Et alors évidemment, la question qui se pose derrière est de savoir si c'est une des phrases qui ont coûté la vie à Thomas Sankara. Est-ce que en faisant cela, il s'est isolé sur la scène internationale? Et est-ce que d'une façon ou d'une autre, le putsch qui lui a été fatal en octobre 87, a pu être soutenu d'une façon ou d'une autre par Oufouette en Côte d'Ivoire, qui avait des relations difficiles avec Sankara, et qui sait, par la France de Mitterrand. Évidemment, pas de réponse pour l'instant, mais c'est une question que se pose un certain nombre de Burkinabés.
Alors Thomas Sankara est mort avant d'avoir vu chuter le mur de Berlin. Une période passionnante, ces années 90, puisque c'est celle des conférences nationales en Afrique. En tête de proue, le Bénin de Kérékou. Nous sommes en février 1990.
Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation.
Dans la foulée, François Mitterrand conditionne l'aide au développement, à la démocratisation des États africains. C'est son célèbre discours de la Baule en juin 1990.
Impossible de proposer un système tout fait. La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle qui s'imposerait de facto à l'ensemble de peuples qui ont leur propre conscience et leur propre histoire et qui, s'ils veulent bien retenir le principe édicté, la démocratie est un principe universel, doivent savoir comment s'y diriger. Et il n'y a pas 36 chemins. À la démocratie, il faut un État. À la démocratie, il faut le développement. Et il faut l'apprentissage des libertés. La France liera dans sa démarche tout cet effort de contribution à tous les efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté.
Christophe Beaubouvier, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est une nouvelle rupture que ce discours de la Baule, comme l'avait été cette première rupture du début du septennat incarnée par Jean-Pierre Cotte avec ce discours tiers-mondiste?
C'est la première fois, et ça fait déjà 9 ans que Mitterrand est au pouvoir, c'est la première fois que dans une réunion franco-africaine, Mitterrand parle politique avec ses interlocuteurs africains. Jusqu'à présent, vous l'avez remarqué, notamment la première réunion en novembre 81 à Versailles, il parlait politique avec les latinos à Cancun, mais il ne parlait qu'économie avec les chefs d'État africains. On voyait bien la différence, c'était très frappant dans la première partie de votre émission. Là, pour la première fois, là, il s'adresse à ses partenaires en leur parlant aussi de démocratie et de liberté et en faisant cette fameuse conditionnalité, si vous faites plus de liberté, vous aurez plus de soutien de la France. Donc oui, il y a un changement. Mais malheureusement, comme le montrera la suite de l'histoire, c'est un changement essentiellement symbolique et factice, puisque notamment 18 mois plus tard, quand la révolution démocratique sera en marche au Togo en décembre 91, eh bien, il ne fera rien pour empêcher le général président Eyadema de réprimer dans le sang cette volonté de démocratie au Togo.
Alors, ce deuxième septennat, c'est également celui des affaires, des scandales et de l'argent. Dans le film de Patrick Banquet, France-Afrique, l'ancien ambassadeur de France au Gabon et membre des réseaux Focard, Maurice Delaunay, témoigne des mouvements de fonds clandestins entre l'Afrique et les responsables français.
Tous les présidents que j'ai connus, ont accepté de l'argent.
Tous les présidents français.
Tous. Non. Pompidou, non. Giscard, pas beaucoup. Mais Chirac, oui. Et Mitterrand, beaucoup.
En 1989, François Mitterrand, réélu pour un deuxième septennat présidentiel, nomme Loïc Le Floch-Prigent à la tête de ELF. Le nouveau PDG découvre l'ampleur du système de financement occulte.
On finance des gens en Afrique qui financent des gens en France. Et est-ce que ce système est un système auquel je mets un terme ou pas? Le président de la République me dit, vous continuez comme on a fait dans le passé, mais vous ne nous oubliez pas.
C'est au cours du deuxième septennat de François Mitterrand que le système s'emballe. Les profits colossaux que l'exploitation du pétrole génère font tourner les têtes les plus solides. Et en 1994, éclate l'affaire ELF, qui va mettre à jour un formidable système de détournement de biens sociaux, de corruption et d'enrichissement personnel.
C'est le plus grand scandale financier de l'histoire judiciaire, écrivez-vous Christophe Boisbouvier, une affaire qui éclate en 1996 pour le grand public, après la mort du président Mitterrand. C'est 300 millions d'argent public, hein, c'est ce que montre Eva Joly au fur et à mesure de son enquête. Ce qui est impressionnant, notamment dans le témoignage de Maurice Delaunay, qui fait partie du système Focard, c'est qu'il insiste en disant « mais c'est Mitterrand qui en a pris le plus ».
Oui, parce qu'il est resté longtemps au pouvoir, mais c'est pas une question de différence entre la gauche et la droite. Là, vous avez vraiment une complicité entre ce qu'on appelait à l'époque le RPR et le Parti Socialiste. C'est-à-dire que Mitterrand dit à Le Floch, vous continuez à donner à la fois au RPR de Jacques Chirac et au Parti Socialiste que je dirige, même si c'est pas officiellement. Pourquoi? Parce que Mitterrand sait que ce n'est pas ad vitam aeternam que la gauche est au pouvoir, qu'un jour la droite reviendra, mais qu'il faut que le système continue d'alimenter la caisse du Parti Socialiste, qu'il soit dans le pouvoir ou dans l'opposition. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte d'omerta, il y a une sorte de complicité tacite entre la droite et la gauche, oui, dont profitent évidemment les présidents africain, à commencer par le nouveau chef d'orchestre de la France-Afrique à l'époque, c'est Omar Bongo.
Et dans ce scandale financier, du côté africain, c'est Bongo qui tient les clés.
Oui, c'est-à-dire, en fait, il ne tient pas toutes les clés. Ça marche entre Paris et Libreville. Vous avez une banque ELF qui s'appelle la FIBA, qui est en fait une véritable caisse dans laquelle s'alimente à la fois l'État gabonais, mais aussi, à titre personnel, le président Bongo. Et à partir de cette cassette personnelle, il est en mesure de faire de généreux cadeaux à un certain nombre de partis politiques en France, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, ce qui lui permet d'avoir une certaine influence sur la politique française, et ce qui, en contrepartie, lui permet de faire à peu près ce qu'il veut au Gabon. Évidemment, grâce à cela, il se paye une assurance vie au Gabon. Et un mois avant le fameux discours de la boule de François Mitterrand, nous sommes en avril 90, il y a une insurrection à Port-Gentil, la cité pétrolière, justement, du Gabon, et la première chose que fait Mitterrand, c'est d'envoyer la troupe française pour mettre fin à l'insurrection et restaurer le pouvoir de Bongo sur le Gabon.
Et dans ce scandale, on voit bien qu'on est bien au-delà du financement occulte des partis. Il y a vraiment une dimension également d'enrichissement personnel.
Oui, avec ce fameux scandale Roland Dumas, Christine de Viejancourt, que toute la France a suivi. Alors ça, c'est après la mort de Mitterrand, mais l'origine est du temps de Mitterrand. C'est en effet ce système ELF qui va jusqu'au point où la société ELF entretient une demi-mondaine, Christine de Viejancourt, qui va aller ensuite dans le lit d'un ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, avec le scandale des fameuses chaussures à grand prix offertes par Madame de Viejancourt à Monsieur Dumas.
Oui, 11 000 francs à l'époque.
Vous écoutez RFI, La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Mitterrand, l'Africain, ou la politique africaine de la France, selon François Mitterrand, avec un dernier dossier dans la Marche du Monde, celui du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, pour tenter de définir l'implication personnelle de François Mitterrand dans le soutien au régime raciste et criminel de Juvénal Habyarimana, j'ai sollicité l'expertise de Jean-François Dupaquier, auteur de Politique, militaire et mercenaire français au Rwanda, aux éditions Cartala.
D'abord, François Mitterrand est hanté par le complexe de Fashoda. Et il l'a dit très tôt, il l'a dit dans une déclaration tenue en 1957, « Tous les ennuis que nous avons eus en Afrique occidentale française n'ont rien à voir avec un désir d'indépendance, mais avec une rivalité entre les blocs français et britanniques. Ce sont des agents britanniques qui ont fomenté tous nos ennuis. » Et Juvenal Habyarimana comprend très vite le parti qu'il peut tirer de cette obsession, de ce complexe de Fashoda, pour se présenter comme aux avant-postes de la francophonie dans un système, on appelle ça la théorie des dominos, où si un pays tombe, il va entraîner d'autres pays derrière lui, et il va sans cesse, bien avant la guerre civile, en tirer énormément d'avantages, des avantages de subventions, d'aide militaire, d'aide diplomatique. Et il voit bien qu'il entraîne Mitterrand sur un terrain où François Mitterrand est faible parce qu'il a une vision archaïque des situations en Afrique.
Ce soutien à Habyarimana, jusqu'où le président Mitterrand le maintient-il ? Est-il aveugle ou complice du génocide dont il est informé ?
On fait parfois une montagne de François Mitterrand, une sorte de sommet de l'ambiguïté, d'un héros vénitien de la Renaissance. Mais c'est en même temps un homme comme les autres, avec ses qualités, ses défauts, et il a une forte dose d'affectivité. Je crois que ça va peser très lourd dans ses relations avec Habyarimana parce qu'il aime sincèrement Habyarimana. Parce que pour lui, Habyarimana, il représente exactement le prototype du chef d'État africain dont un chef d'État français peut rêver. Un homme en apparence obéissant, aux petits soins, qui entretient chez le chef d'État français sa conviction qu'il a toujours raison. Et puis, en réalité, il aime aussi Habyarimana parce que il se pose en digne fils du monde francophone. Par exemple, il est capable, devant François Mitterrand, de réciter des vers de Victor Hugo pendant une demi-heure de mémoire. Et ça, ça fascine Mitterrand.
La guerre raciale, ce front racial, clairement énoncé par Habyarimana, ne choque pas François Mitterrand. C'est-à-dire que ce serait moindre mal qu'une déstabilisation et une perte du pouvoir d'Habyarimana, ce qui voudrait dire une perte de l'influence française sur ce précaré.
Cet enjeu racial est de plus en plus occulté par une campagne de désinformation menée par le pouvoir rwandais d'une très haute sophistication pour, encore une fois, désamorcer, dédramatiser, évacuer l'aspect moral de cette tragédie. Et curieusement, les diplomates français, les militaires français filtrent toutes ces informations et on ne voit pas arriver à l'Élysée l'information vraie qui est rapportée par les journalistes et par exemple par RFI. Vous savez que parmi les télégrammes diplomatiques de l'ambassadeur Georges Martre, il met en cause RFI en disant que RFI ne dit pas la vérité que lui il dit, c'est-à-dire la vérité rapportée depuis le président Habyarimana et ses services.
Le lendemain de l'attentat contre l'avion de Juvenal Habyarimana, le génocide des Tutsis est déclenché. À partir du 7 avril et pendant 3 mois, 800 000 victimes, essentiellement désignées comme Tutsis, mais aussi des Hutus opposés au massacre, sont assassinées. Le 10 mai 1994, Mitterrand répond à ceux qui réclament une intervention.
Nous voulons bien être des bons soldats de la paix pour les Nations Unies. Il faut qu'on nous le demande, il faut que ça s'organise, il faut qu'il y en ait d'autres à nos côtés. Nous ne sommes pas destinés à faire la guerre partout, même lorsque c'est l'horreur qui nous prend au visage. Nous n'avons pas le moyen de le faire et nos soldats ne peuvent pas être les arbitres internationaux des passions qui aujourd'hui bouleversent et déchirent tant et tant de pays.
Mitterrand et le Rwanda, Mitterrand et la responsabilité de la France au Rwanda. À la lumière de vos investigations, que pouvez-vous nous en dire, Christophe Beaubouvier ?
Oui, alors, il y a plusieurs phases dans le génocide, il y a avant et pendant. Je pense que la première responsabilité de la France, c'est avant, en fait, parce que vous avez de 90 à 93, pour être précis, vous avez une force française qui est au Rwanda pour soutenir le régime Habyarimana contre une organisation rebelle, le FPR, qui vient d'Ouganda. Pourquoi pas ? Après tout, la France l'avait fait avant aussi dans d'autres pays, mais qui ne se contente pas de ça, qui fait aussi de la formation militaire. hein, qui forme l'armée rwandaise à combattre le FPR, mais pas seulement, mais aussi à faire de la police à l'intérieur du Rwanda. Et malheureusement, il faut bien le dire, ce sont les mêmes qui ont été formés par l'armée française qui vont commettre le génocide en 94. Donc ça pose la question, est-ce que la France, pourquoi la France s'est aveuglée, hein, à former des gens qui vont commettre l'irréparable, alors qu'il y a un chef de mission coopération militaire française qui sonne le tocsin dès 1992, alors qu'il y a une mission internationale de droits de l'homme qui sonne également le tocsin dès 92. Donc voilà, ça c'est la plus grande responsabilité de Mitterrand dans l'affaire Rwandais, c'est cela, c'est cet aveuglement avant le génocide. Et puis après le déclenchement du génocide, l'aveuglement il est collectif, puisque c'est le retrait de la majorité, de la quasi-totalité des casques bleus de la MINUAR, au moment où, au contraire, il faut renforcer la MINUAR pour empêcher que le génocide commencé à partir du 7 avril ne se poursuive. Et là, c'est une responsabilité collective de la France, de Mitterrand, des États-Unis de Clinton, de la Grande-Bretagne de Major, de la Russie, de la Chine, des cinq pays qui décident, quelques jours après le 7 avril, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, de retirer les casques bleus.
Mitterrand, personnage complexe, homme d'État d'envergure, France-Africain vétéré et en même temps figure du tiers-mondisme, a tout au long de ses deux mandats soutenu le combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Ironie de l'histoire, c'est en plein génocide au Rwanda que les projecteurs du monde entier sont braqués sur Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud.
I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa.
Will you please raise your right hand and say, so help me God.
So help me God.
Les événements de Pretoria, c'est-à-dire d'Afrique du Sud, sont parmi les plus importants et les plus symboliques de toute l'histoire des rapports que j'appellerais, très grossièrement naturellement, de colonisation et décolonisation, d'abandon par toute une partie d'hommes et de femmes qui s'étaient habitués à raisonner autrement, de toute idée de racisme, et en tout cas de toute mise en application d'un système raciste. L'apartheid était abominable. Et il a fallu le courage et l'intelligence de beaucoup de responsables, et surtout de deux d'entre eux, le leader africain noir Nelson Mandela et Frédéric de Klerk, blanc, pour réussir une chose pratiquement insoupçonnable. C'est pour moi un jour de grande joie.
Et quelques semaines plus tard, François Mitterrand sera le premier chef d'État à être reçu en visite officielle par Nelson Mandela en Afrique du Sud, Christophe Boisbouvier.
Oui, mais Mitterrand et l'apartheid, c'est compliqué, hein. Il y aurait un bouquin à écrire sur cela.
Ça sera le prochain.
Ouais, peut-être, oui, mais parce que certes, il y a de très belles phrases de Mitterrand. On a entendu celle-là. Il y a aussi une belle phrase dans son livre de janvier 86, Réflexions sur la politique extérieure de la France. La conscience universelle a le sommeil lourd, il serait temps de l'alléger, à propos de l'apartheid. Ça, c'est le grand tribun Mitterrand, le grand écrivain aussi. Mais vous avez un autre Mitterrand, c'est-à-dire que en 81, malgré les promesses du candidat, la France continue de commercer avec l'Afrique du Sud.
Ils ont pris des mesures tout de même, hein.
Il faudra attendre 85, hein. 4 ans après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Donc ça prend du temps. Et puis vous avez en 87-88 la représentante de l'ANC à Paris, Dulcy September, qui s'interroge sur l'éventuelle continuité de certaines relations commerciales entre la France et l'Afrique du Sud de l'apartheid. Elle se demande même si la France ne continue pas à fournir des composants de l'industrie nucléaire sud-africaine. Elle sera assassinée en plein Paris en mars 88, en pleine cohabitation Mitterrand-Chirac.
Complètement à charge, votre vision justement de ce personnage Mitterrand l'Africain, Christophe Boisbouvier.
Non, je ne dis pas que c'est le président ou le premier ministre français qui l'ont fait assassiner, bien sûr, je ne dis pas cela. Je dis simplement, la piste la plus probable, ce sont les agents secrets sud-africains qui sont allés la tuer en plein Paris. Simplement, on peut se demander si quelqu'un de cette importance, la représentante de l'ANC en France, hein, pays membre du Conseil de sécurité, peut être assassinée en plein Paris à l'insu de toute autorité française, de tout service français.
En guise de conclusion, permettez-moi de citer page 41 de votre livre, votre citation de François Mitterrand. Vous soulignez une phrase de 1957, « Sans l'Afrique, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle ». Nous y sommes.
Oui, c'est Mitterrand. On en revient au complexe de Fashoda. Mitterrand est persuadé, et je pense que ses successeurs sont pas loin de penser la même chose, que ce soit Chirac ou aujourd'hui Hollande, sont persuadés que la France reste un petit îlot de résistance à l'impérialisme anglo-saxon et que cette résistance passe par l'Afrique francophone.
Merci Christophe Boisbouvier. Mitterrand, mais aussi et surtout Hollande, l'Africain, c'est votre livre aux éditions La Découverte. Mitterrand l'Africain, c'est une marche du monde réalisée par Cécile Pompéani avec les précieuses archives de l'INA. Nombre d'entre elles étaient inédites aujourd'hui et de RFI. Écrivez-nous marche.monde@rfi.fr sur notre page Facebook. Exprimez-vous avec modération. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Il conscient la dictature, tout ça pour nous affamer. Il pille nos richesses.